Bonjour à tous, c'est un plaisir et un privilège pour moi d'être de nouveau parmi vous ce matin. Aujourd'hui, c'est la journée que le CEL propose aux églises pour se souvenir de la situation de ceux qui vivent dans la pauvreté dans les pays en développement, pour prier pour eux, pour réfléchir à ce que la Bible peut avoir à nous dire sur ce que nous pourrions faire à l'égard de ceux qui vivent dans la pauvreté, et aussi cette année pour parler de nos partenaires, ces organisations chrétiennes locales qui accomplissent un travail remarquable auprès de personnes qui vivent dans la pauvreté et qui peuvent nous inspirer dans notre vie chrétienne, nous aussi. Je vous invite à écouter la parole de Dieu dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 12, Évangile selon Luc au chapitre 12, à partir du verset 13. Et dans un premier temps, je lirai jusqu'au verset 21. Luc chapitre 12, verset 13. Quelqu'un de la foule dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Il répondit à cet homme, « Qui m'a établi sur vous pour être juge ou faire des partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et disait, « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. » Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Le texte que nous venons de lire commence par une interpellation sur un sujet qui a pourri la vie de beaucoup de familles, une querelle d'héritage. Un homme se plaint, à tort ou à raison, le texte ne le dit pas, du fait que son frère refuse de partager l'héritage. Et cet homme vient faire appel à l'autorité du maître qu'est Jésus pour exercer une pression sur son frère. Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. À cette occasion, Jésus raconte une parabole qui touche aux orientations les plus profondes de notre vie. Une parabole qui nous parle de deux catégories de personnes et qui nous amène à nous demander où nous nous situons. Il y a d'une part des insensés qui accumulent des trésors pour eux-mêmes et d'autre part des personnes qui sont riches pour Dieu. Voici un homme qui a un projet. Il est riche. Il s'est encore enrichi et il décide de prendre de très longues vacances. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Il m'est arrivé, en lisant ce texte, de me dire, si seulement je pouvais en faire autant. Me reposer, enfin, et profiter de la vie, autant que possible. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'attitude de cet homme ? Est-ce que Dieu est contre le fait que quelqu'un se réjouisse ou profite de conditions de vie agréables ? Le texte ne dit pas cela. Le texte dit que cet homme est un insensé parce qu'il n'a pas tenu compte du fait qu'il allait mourir et que même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Cet homme a cru qu'avec ses récoltes, il avait atteint son but dans la vie. Il a dû se dire quelque chose du genre « Maintenant, ma vie est entre mes mains. Je contrôle les choses. Je peux faire ce qui me fait plaisir. Je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » L'apôtre Paul a écrit un texte qui éclaire ce passage de l'Évangile. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Le riche de notre parabole a oublié que les richesses matérielles sont des richesses incertaines. Il ne faut pas s'appuyer sur elles ou bâtir notre avenir en mettant notre confiance en elles. Tout cela n'est qu'une forme d'orgueil. Je me suffis à moi-même parce que je suis riche. Je fais ce que je veux de ma vie. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Dans l'Ancien Testament, le prophète Jérémie s'en était pris avec vigueur au roi Jéhoiakim qui s'était lancé dans des projets de construction grandioses mais qui oubliait de payer ses ouvriers. Je vous cite prophète Jérémie, chapitre 22, verset 14. « Malheur à celui qui bâtit sa maison en dépit de la justice et ses chambres hautes en dépit du droit, qui fait travailler son prochain pour rien, sans lui donner son salaire. » Et en contraste avec cette attitude du roi Jéhoiakim, le prophète rappelle au roi l'exemple de son père, le bon roi Josias. Josias savait profiter de la vie, mais il n'oubliait pas ses responsabilités. Ton père ne mangeait-il pas? Ne buvait-il pas? Mais il pratiquait le droit et la justice. De la sorte, tout allait bien pour lui. Il jugeait la cause du malheureux et du pauvre. De la sorte, tout allait bien pour lui. N'est-ce pas là me connaître, oracle de l'Éternel? Les biens nous viennent de Dieu. L'apôtre Paul a pu dire que Dieu nous donne tout en abondance pour que nous en jouissions. Le roi Josias a pu manger et boire avec la bénédiction de Dieu. Cela confirme ce que je disais sur le fait que le riche de la parabole n'est pas condamné pour avoir voulu se réjouir, manger ou boire. Il est possible de faire toutes ces choses avec l'approbation du Seigneur. Maintenant, Paul ne dit pas seulement que Dieu nous donne toutes choses avec abondance pour que nous en jouissions. Il dit encore, je continue la lecture du texte que j'avais commencé à citer, qui se trouve dans la première lettre à Timothée au chapitre 6, versets 17 à 19, qu'il fasse le bien, qu'il soit riche en œuvres bonnes, qu'ils aient de la libéralité, de la générosité, et qu'ils amassent ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir, afin de saisir la vraie vie. Ceux qui sont riches matériellement, les riches du présent siècle, doivent rajouter à leur richesse matérielle une autre richesse, une richesse en œuvres bonnes. Ils doivent profiter de leur richesse pour faire le bien, pour inclure leur prochain dans leur vie, au lieu de l'exclure de leur pensée. Tiens donc, avez-vous remarqué que l'autre, le prochain, est le grand absent de la parabole de Jésus? À aucun moment, l'homme riche n'envisage de faire profiter quelqu'un d'autre que lui de tous les biens qu'il possède. Ses grandes vacances ne concernent que lui. Le riche de la parabole ne partage pas. Paul dit que les riches du présent siècle doivent faire preuve de libéralité, de générosité, ce qui s'applique en particulier à notre comportement envers ceux qui sont dans le besoin, les pauvres. Ceux qui deviennent ainsi riches en œuvres bonnes sont riches pour Dieu. Ils amassent ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir, afin de saisir la vraie vie. Ce qui est en cause dans le texte de l'Évangile, ce n'est pas En premier lieu, le fait d'avoir oublié de faire un chèque à une association caritative ou ne pas avoir pris suffisamment de temps pour méditer sur la mort, ce qui sont deux choses utiles à faire. Mais c'est toute l'orientation de la vie qui est en cause. Ce qui me motive, ce que je crois concernant Dieu, c'est sur tout cela que Jésus veut nous interpeller. Et ne pas partager ou ne pas penser à la mort, ce sont des symptômes d'un problème plus profond. Je vous invite à continuer la lecture du texte de l'Évangile. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus, car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous de ce qui reste ? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui existe aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à plus forte raison pour vous, gens de peu de foi ? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne vous tourmentez pas. Car tout cela, ce sont les païens du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt son royaume, et cela vous sera donné par surcroît. Sois sans crainte, petit troupeau. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux où il n'y a pas de voleurs qui approchent, ni de mythes qui détruisent, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Je voudrais souligner trois vérités importantes dans ce que Jésus nous dit ici, trois vérités extrêmement simples. Et ensuite, poser trois questions. Trois questions que je vous invite à méditer pour vous-même, peut-être à méditer pour vous-même chez vous, prendre le temps d'y réfléchir et de vous demander comment est-ce que vous vous situez par rapport à ces questions. Trois vérités extrêmement simples. Première vérité, Dieu existe et il agit véritablement dans le monde. Il nourrit les corbeaux, il prend soin de la croissance des lys des champs. Bref, il opère toutes choses selon la décision de sa volonté. C'est lui qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ne pas reconnaître cette réalité et ne pas être reconnaissant pour cette réalité, c'est agir en insensé. L'existence de Dieu et sa providence sont pourtant des vérités très largement ignorées autour de nous, et même pour nous qui sommes chrétiens, je ne sais pas si nous en tenons compte dans le concret de notre vie quotidienne. Nous vivons bien souvent comme si Dieu n'existait pas, ou plutôt comme s'il se contentait d'exister, et que son existence ne changeait rien dans la vie de tous les jours, comme s'il n'interférait pas dans la réalité de notre monde. Dieu existe. Et il agit véritablement dans le monde. Deuxième vérité, notre vie nous échappe. Même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous de ce qui reste ? Notre vie nous échappe malgré les efforts parfois phénoménaux que nous faisons pour essayer de nous mettre aux commandes de notre vie, ou peut-être simplement essayer de nous convaincre que nous y sommes. Ma vie sera accomplie. Si seulement quoi ? Si seulement mon frère veut bien partager avec moi l'héritage auquel j'ai droit. Ma vie sera accomplie. Si seulement je peux arrêter de travailler et consommer tout ce qui me fait plaisir. Et on pourrait allonger la liste. Ma vie sera accomplie si seulement je trouve un conjoint, si seulement je trouve le travail dont je rêve, si seulement mes enfants pouvaient être un peu différents de ce qu'ils sont. Ma vie sera accomplie. Quelle est la chose dont vous pensez avoir absolument besoin pour avoir une vie réussie? Notre vie nous échappe. Dieu existe véritablement et il agit dans le monde. Notre vie nous échappe. Et troisième vérité, Dieu est notre Père. Il prend soin de nous et il a pour nous un projet qui vaut mieux que le projet de grandes vacances du riche de notre parabole. D'abord, il prend soin de nous et il nous décharge du souci d'avoir à nous prendre en charge nous-mêmes. Lui nous prend en charge et il sait de quoi nous avons besoin. Ensuite, il a trouvé bon de nous donner le royaume et il nous pousse à faire de ce royaume la priorité de notre vie. Que Dieu, son action dans l'Église et dans toute la création, soit au cœur de nos préoccupations. Au lieu d'une vie égocentrique, que nous ayons une vie théocentrique, centrée sur Dieu. Nous faisons partie de quelque chose de plus grand que notre vie individuelle. Dieu nous inclut dans son royaume et Jésus est notre roi. Jésus est venu accomplir une œuvre de réconciliation. Il n'est pas venu pour nous aider à obtenir nos revendications. Dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Il est venu pour nous rendre capables de vendre ce que nous possédons et de le donner en aumône. Les pauvres devraient bénéficier de l'effet de la présence du royaume dans notre vie. Si ce n'est pas le cas, arrêtons-nous pour réfléchir. Je voudrais maintenant poser trois questions. Trois questions qui sont liées aux 60 sans crainte petits troupeaux. Première question. Quelle est la chose qui vous fait le plus peur dans la vie? Il n'y a pas une réponse universelle à cette question. Vous seul pouvez y répondre. Quelle est la chose qui vous fait le plus peur dans la vie? Dans le texte que nous avons lu, Jésus parle de gens qui s'inquiètent, qui se tourmentent même, parce qu'ils se demandent s'ils vont avoir le nécessaire pour vivre. C'est une peur qui peut être très profonde. Je cite parfois un sondage qui a eu lieu il y a quelques années qui disait que 60% des Français pensent que eux ou un de leurs proches pourrait un jour devenir sans domicile fixe. Quand il y a 60% de la population d'un pays qui pense ça, ça veut dire qu'il y a quand même probablement un peu d'inquiétude dans la population en question. Quelle est la chose qui vous fait le plus peur dans la vie? Cette peur de ne pas avoir ce dont on a besoin pour vivre, ça peut être une peur vraiment profonde, qui tourmente. C'est la peur d'être incapable de se débrouiller dans la vie, de se trouver face à des situations qui nous dépassent complètement, de se retrouver tout seul, sans rien. Quelle est la chose qui vous fait le plus peur dans la vie? Je vous encourage à réfléchir sérieusement à cette question. Parce que parfois, on est prêt à faire n'importe quoi pour éviter ce dont on a peur. La peur pousse à mentir, à voler, à tuer parfois. Ou elle pousse, c'est peut-être moins visible, à tellement se préoccuper de soi-même qu'on n'a plus rien à donner aux autres. Je me demande si l'un des obstacles les plus importants à un engagement chrétien à l'égard des pauvres n'est pas simplement la peur. J'ai trop peur pour pouvoir penser à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre qu'à moi. Deuxième question. Avez-vous déjà laissé Dieu vous rassurer au sujet de ce qui vous fait le plus peur? Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Avez-vous déjà pris le temps d'écouter le Maître dire « Sois sans crainte » ? Ce n'est pas une parole qu'on peut écouter en passant. Ce n'est pas une parole qu'on écoute une fois, qu'on médite un peu, et puis ensuite, on passe à la parole suivante. C'est le genre de parole auquel on a toujours besoin de revenir. C'est jamais gagné. Comme Pierre marchant sur l'eau, à n'importe quel moment, on peut être tenté de regarder ailleurs qu'à Jésus et de commencer à couler. C'est le genre de parole auquel on a besoin de revenir régulièrement. Et maintenant, troisième question, que pourrait-il se passer si vous laissiez Dieu vous rassurer au sujet de ce qui vous fait le plus peur? Sois sans crainte, petit troupeau. Et que dit le verset suivant? Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Je crois que ce sont ceux qui ont su écouter Jésus dire « Sois sans crainte » qui sont capables de faire de grandes choses, des choses significatives, comme d'être riches en œuvres bonnes, au point d'agir d'une manière étonnante à l'égard de ceux qui vivent dans la pauvreté. Quand le sel se donne comme mot d'ordre d'être une action chrétienne dans un monde en détresse, il veut promouvoir un certain style de vie parmi les chrétiens en France. Et nous nous incluons dans le lot. Nous ne sommes pas l'association qui est prête à donner des leçons à tous les chrétiens de France et de Navarre. C'est pour nous. On fait partie de l'Église en France. Promouvoir un certain style de vie qui nous pousse à inclure notre prochain. Pour nous, en l'occurrence, le pauvre dans les pays en développement. Pour inclure notre prochain dans nos préoccupations. Mais pour que ce soit fait d'une manière vraiment chrétienne, c'est toute l'orientation de notre vie qui doit être façonnée par la parole du Maître. Et il faut que ce soit une réponse à une parole de grâce qui nous dit « Sois sans crainte, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Que le Seigneur nous donne ainsi de l'entendre quand il nous rassure et de le suivre pour faire le bien. Amen.